A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Got gun, both left slot.
Dixie left, T left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Fever left, 75, Katie. Omaha.
Quick, guys.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 682 du podcast Jeune Actuel. Amatei, très heureux de vous retrouver à mes côtés aujourd'hui pour débriefer la 12e semaine de NFL. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Dis donc, c'est joli ce motif un peu damier à côté de toi, Grégory, c'est nouveau ?
Tout à fait, ouais, bah écoute, c'est pour saluer la saison de F1 qui se termine bientôt, hein, c'est pour isoler accessoirement la pièce.
Ah d'accord, je me demandais ce que c'était, si c'était de la déco ou un hommage à Max Verstappen.
Un peu les deux.
Un peu...
Tant qu'à joindre l'utile à l'agréable.
Exactement, bon. Merci beaucoup messieurs, j'espère que vous allez bien. Une AFC complètement indécise, une NFC Sud encore plus indécise et des Patriots qui coulent, c'est le programme de la semaine 12 et c'est parti pour un nouveau débrief NFL.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence, messieurs, avec la conférence AFC, une conférence AFC très indécise désormais, avec les Chiefs, honneur évidemment aux champions en titre. Chiefs 31, Raiders 17, c'était très mal parti pour Kansas City, menait 14-0, 13 yards gagnés seulement sur les deux premières offensives. Et puis l'attaque s'est réveillée, 3 touchdowns à la suite, à l'inverse des Raiders qui n'ont plus rien fait ou presque après leur bon début de match, 7 first downs seulement sur le reste du match après leurs 2 touchdowns pour les Raiders. Messieurs, est-ce qu'il faut croire, on va commencer, tiens, est-ce qu'il faut croire à la renaissance ou à la naissance, je sais pas, de Rashee Rice, 8 réceptions, 107 yards, un touchdown dans ce match. Est-ce qu'ils ont enfin leur receveur numéro 1, Raphaël ?
Est-ce qu'ils l'ont enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que les Chiefs espèrent forcément. C'est vrai qu'on avait senti sur un ou deux matchs depuis le début de saison qu'il avait un potentiel pour être le receveur numéro 1 de cette équipe, et puis il était un peu rentré dans le rang. Là, il fait son meilleur match de la saison, assurément. Il a des qualités, clairement. On sent qu'il a un physique, qu'il a de la vitesse. Donc, à voir si les Chiefs sont capables de continuer sur lui. En tout cas, c'est forcément la bonne nouvelle de ce match pour Kansas City si on part du principe que c'est l'avenir pour le reste de la saison. On va dire ça comme ça.
Grégory, est-ce que tu crois à ce que tu as vu ?
Oui, Raph le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait déjà vu un petit peu quelques éclairs de sa part sur les précédentes semaines. Après, ça reste un rookie à développer, à façonner petit à petit. Mais c'est sûr que dans ces différents profils, on va dire, au sein de l'attaque aérienne de Kansas City, on sait qu'on avait pas mal de speedsters, de petits joueurs assez rapides, capables de faire mouche. Mais c'est vrai que des profils un peu de ce gabarit-là et des vrais receveurs de possession, surtout avec la disgrâce ces dernières semaines de Marquez Valdes-Scantling, c'est pas une mauvaise chose d'avoir en effet un Rashee Rice qui justement prétend à attraper plus de ballons. C'est le receveur qui a été le plus ciblé ce week-end du côté de Kansas City, et comme par hasard ça a coïncidé avec un moment où Kansas City a repris les choses en main et à rattraper puis largement dépasser les Raiders.
Il a été ciblé 10 fois, Rashi Rice, en effet. Bon, ça semble quand même un petit peu précaire pour les Chiefs. Est-ce qu'ils peuvent encore se permettre ce genre de début de match? C'est un peu leur marque de fabrique, hein. Ils le font beaucoup ces dernières années, même en playoff où ils étaient des fois tombés dans des gros trous. Là, la défense leur permet. Ils se sont bien ajustés. Raphaël, c'est leur défense maintenant qui leur permet de démarrer un peu. Alors, la défense démarre mal, mais elle se récupère bien derrière, on va dire.
Oui, bah tant qu'ils ont cette défense à ce niveau-là, hein, parce que globalement la défense des Chiefs en deuxième mi-temps, c'est à peu près la défense de Kansas City qu'on voit depuis le début de la saison. Hein. C'est une défense très agressive qui réussit à mettre la pression, qui encaisse peu de points. Et c'est cette défense qui leur permet depuis le début de saison d'être à 8 victoires. Hein. Faut pas se tromper. C'est à mon sens c'est quand même la défense qui permet ce bilan depuis le début de l'année. Donc là ils ont permis aux Chiefs de ne pas, malgré un retard de 14 points, finalement d'être toujours à portée et surtout de ralentir les Raiders. Donc oui, enfin moi je trouve qu'ils peuvent se le permettre grâce à cette défense, et si l'attaque retrouve du rythme, ils peuvent d'autant plus se le permettre. Donc c'est peut-être la bonne nouvelle de ce match, mais c'est voilà, la bonne nouvelle c'est que la défense s'écroule pas quand l'attaque se remet à marcher, ça c'est au moins c'est...
Grégory, il bénéficie aussi quand même de Raiders qui semblaient à court de solutions. Il démarque correctement Las Vegas, mais derrière, on sent qu'une fois que la défense s'est ajustée, ça coince.
Oui, les ajustements ont du mal à être trouvés. Et pourtant, je trouve que Aidan O'Connell, depuis qu'on lui fait confiance, ne déshonore pas spécialement sous la coupe d'Antonio Pierce. Après, on a quand même un groupe qui est assez limité. On a une défense aussi qui a un peu baissé de rythme. Hein, Et ça fait aussi écho à des prestations de joueurs qu'on attend peut-être à un meilleur niveau. Un Divine Diablo, par exemple, sur le poste de linebacker. Aussi et surtout à Marcus Peters, qui a été un vrai problème sur ce match-là. Enfin, qui continue en tout cas d'être un vrai problème en termes de plaquage. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a coupé dans la foulée du côté des Raiders. On rappelle en plus, ça rejoint encore le côté défensif, qu'on a quand même un safety qui s'est fait prendre pour un excès de vitesse en état d'alcool. Alcoolisme, il me semble.
En état d'ivresse, pardon.
C'est plus français, merci. Quelques heures avant le match, donc ça aussi, ça fait quand même un petit peu tâche globalement et ça participe à la photographie globale.
Mais il a été viré, c'est plus un Raiders, donc ça compte pas.
Oui, voilà, non, mais voilà, ça contribue malgré tout au fait que on a une défense et une équipe en règle générale qui a essayé de montrer une certaine résistance dans un premier temps, mais c'est aussi un effectif qui me paraît un petit peu juste. On dit qu'Antonio Pierce est à 2-2 aujourd'hui, si je me permets d'anticiper. Ils ont battu les Giants et les Jets qui étaient à leur portée, et derrière ils perdent contre Miami et Kansas City. Donc en soi, il n'y a rien d'infamant dans ce qu'on voit en termes de limite des Raiders, même si le début de match a été satisfaisant.
J'ai envie de dire, pardon, mais en fait c'est ce qu'ils sont aussi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est une équipe où on se doutait qu'ils n'avaient pas ce qu'il faut pour lutter avec les meilleurs de l'AFC, mais qu'ils avaient un potentiel pour battre des équipes un peu plus faibles qu'eux ou à leur portée. Bah, depuis qu'Antonio Pierce a pris les rênes, c'est ce qu'ils ont fait concrètement. Donc il n'y a rien de très surprenant en vrai dans ce que proposent les Raiders. Enfin...
Après, pour revenir sur ce match-là, c'est vrai que moi j'avais noté quand même que Davante Adams a aucune réception après la pause. Josh Jacobs a 110 yards, mais il est calmé aussi après la pause, encore une fois. Mais c'est aussi ça, quand t'as pas un quarterback superstar qui peut-être aussi s'adapter. O'Connell, tu le disais, hein, il est pas infamant, il a 248 yards, un touchdown, aucune interception, il perd pas de ballon, il a 23 sur 33, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, il manque quoi maintenant, en fait? Est-ce que c'est juste une question d'expérience?
En soi, en termes de coaching. Très clairement, l'expérience, elle est là en termes de coaching. Antonio Pierce, il est là pour dépanner, mais voilà, c'est pas non plus, on tombe pas de notre chaise totalement en découvrant que Andy Reid peut sûrement mieux s'ajuster qu'Antonio Pierce à ce moment respectif de leur carrière. Mais c'est sûr que voilà, Raph commençait à en parler aussi. Il y a une intersaison qui, à mon sens, a mal été gérée, et tout Antonio Pierce qu'il est, avec le caractère, le leadership qui l'anime. Il y a peut-être aussi une notion tactique qui est pas forcément extraordinaire, et on a un coordinateur offensif qui est très jeune aussi. Enfin voilà, c'est une équipe qui va essayer d'identifier très clairement les points forts potentiels qu'elle peut avoir, à mon sens, dans l'optique de la saison prochaine. Mais je sais pas si on peut espérer plus, à part en effet faire éventuellement douter des grosses écuries comme ils l'ont fait avec Kansas City lors du premier acte.
Je reviens sur les Chiefs. Est-ce que tu les as trouvés convaincants dans l'ensemble, Raphaël, puisqu'on va parler de la course pour l'AFC? Est-ce qu'ils ont toujours l'air des favoris de l'AFC? Ils sont à 8 victoires, 3 défaites aujourd'hui.
Convaincants, non, pas particulièrement. Ça a mis trop de temps en attaque pour vraiment se lancer. Et puis, pour le moment, c'est grâce à Rashee Rice, mais on l'a vu faire qu'un gros match comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont capables de répéter là-dessus? J'attends de voir. Je leur laisse malgré tout le bénéfice du doute. Hein. Andy Reid, Patrick Mahomes, on va laisser à tout le monde le temps de prouver où ils en sont. Mais pas convaincant. Après, favoris, j'ai envie de te dire presque par défaut, parce que tant qu'ils sont pas battus et éliminés des playoffs, ils sont tenants du titre. Ils sont quintuple ou quadruple finaliste AFC, peut-être même quintuple, je sais même plus maintenant. Au moins 4, je dirais. Donc voilà, à partir de là, c'est difficile. Ils n'ont jamais eu une aussi bonne défense. Donc à partir de là, moi j'ai du mal à dire qu'ils ne sont pas favoris de l'AFC, mais peut-être plus par défaut qu'autre chose.
Je crois que c'est 5 fois de suite finaliste, hein, depuis 2018, si je ne me trompe pas. Mais non, juste pour compléter ce que dit Raph, rappelons que s'il y a bien une équipe en NFL qui est la plus dangereuse au mois de décembre, c'est les Chiefs. Donc ça va clairement être un indicateur sur... s'ils peuvent de nouveau monter en régime au moment le plus idéal pour attaquer cette campagne de playoff.
On passe aux Chargers et aux Ravens. Ravens 20, Chargers 10. Victoire défensive pour les Ravens. 4 ballons volés, les Chargers limités à 279 yards. La défense a montré qu'elle pouvait finir dans le dernier quart-temps, Raphaël. C'est peut-être la leçon de ce match.
Oui. Effectivement, c'est vrai que cette dernière semaine, on les avait vus peut-être de temps en temps lâcher des matchs un peu plus à leur portée, notamment en défense. Là, ils arrivent à finir face à une attaque des Chargers qui a perdu, mais qui a des joueurs qui sous-performent à mon sens. Donc ça a peut-être un peu aidé, mais non. Bon, la défense de Baltimore, avec encore une fois, j'ai trouvé un Kyle Hamilton de très haut niveau. Et même un Jadeveon Clowney, hein, vraiment pas mal, qui fait une très belle saison quand même du côté de Baltimore. Donc c'est la bonne nouvelle, comme tu dis, ils arrivent à fermer des matchs défensivement. Maintenant, ça serait bien qu'ils le reproduisent semaine après semaine, quoi.
Grégory, cette défense, c'est la satisfaction du côté de Baltimore? Ils limitent quand même une attaque qui a du potentiel, les Chargers.
Oui, très clairement. En fait, c'est vrai que forcément, on est très polarisé du côté des Ravens par ce qui se passe en attaque, mais très honnêtement, en défense, et depuis la reprise notamment de ce groupe par Mike McDonald, le coordinateur défensif la saison passée, c'est extrêmement homogène ce qu'on voit, et c'est vraiment une défense qui est dangereuse sous plusieurs formes, parce que même quand il y a des absents notables, même quand on a des joueurs qui sous-performent un peu moins, on a quand même d'autres qui arrivent à sortir du chapeau. Enfin, on voit un Jadeveon Clowney qui généralement a quand même un talent certain, mais c'est vrai que c'est pas celui qu'on arrive à le plus mobiliser, à le plus focaliser. Bah là, il fait des jeux dans le quatrième quart, enfin des jeux extrêmement décisifs, des strip sacks. Ils ont eu un des meilleurs duos de linebackers de la ligue. Raph en parlait. Il y a Kyle Hamilton qui est déjà devenu une vraie tour de contrôle dans cette équipe. Et honnêtement, c'est peut-être pas là où il y a le plus de pro bowlers, ou en tout cas il y a certains postes, notamment peut-être le poste de cornerback, qu'on a très nettement rajeuni le groupe, mais l'ensemble reste extrêmement cohérent et on en revient toujours extrêmement bien coaché. Donc c'est vrai que Baltimore, dans cette bataille avec 9 victoires et 3 défaites, s'ils doivent finir avec le meilleur bilan AFC parce que les uns auront battu les autres, ce ne sera pas une bonne équipe à aller chercher du côté du Maryland, ça c'est certain.
Je rappelle le scénario, en fin de match, les Chargers recollent à 10-13, Justin Tucker manque un field goal, mais Zay Jones marque et la défense réussit 2 stops sur 4ème tentative. Est-ce que Baltimore a été un peu timide? Le field goal manqué, c'est sur 4ème et 1 sur les 26 yards adverses. Le field goal t'aurait donné 6 points d'avance. Je me tourne vers Raphaël pour ce genre de questions. J'ai du mal à voir l'intérêt du field goal.
John Harbaugh est assez conservateur hein, dans ces choix-là. C'est un pragmatique, on va dire, et un peu vieille école, si on peut dire ça comme ça, avec tout le respect qu'on lui doit. Donc je suis pas étonné qu'il fasse ce choix-là. Il est dans la logique prendre les points pour prendre les points. Et je pense que ce choix, il est aussi dicté par sa défense. Il a confiance dans son escouade défensive. Et il se dit que 6 points, ça veut dire que sa défense devra défendre un touchdown et non un field goal. C'est quand même plus facile d'avoir à défendre un touchdown parce que voilà. Donc, je suis pareil, je préférais qu'il tente le touchdown en attaque. Maintenant, à quelque part, moi, je défends surtout de se baser sur ce que tu considères être le point fort de ton équipe. Il considère que le point fort de son équipe, c'est sa défense. Donc, finalement, il laisse les commandes du match à sa défense et c'est à elle de finir le match. Donc, je suis pas non plus catastrophé, tu vois.
Ils se sont beaucoup reposés sur le jeu au sol en attaque du côté de Baltimore. Il y a énormément de yards au sol. J'essayais de retrouver mes stats. 197 yards à 5,6 yards par course. Grégory, est-ce que c'est fonction d'exploiter la faiblesse de la défense des Chargers contre le sol, ou alors est-ce que on fait moins confiance au jeu aérien ? Chercher une manière de le formuler poliment.
Bah après, je pense que ça peut être un plan de jeu qui a été mis en place par Todd Monken et qui, fonctionnant bien, on essaie d'appuyer un petit peu dessus. Après, je vais être un petit peu sévère, mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas que le run stop qui est déficient du côté des Chargers en défense cette année. Donc je pense qu'ils auraient peut-être pu tenter même un petit peu la passe pour voir comment ça réagissait. En dehors de Khalil Mack, on sait que c'est un petit peu compliqué le jeu contre la passe des Chargers cette année. Mais là, ouais, je suis assez époustouflé parce que chaque semaine, c'est jamais la même menace qui se présente. La semaine dernière, on avait un Gus Edwards assez précieux, notamment en position goal line. Cette fois-ci, c'est le rookie Keaton Mitchell qui sort aussi du chapeau. Donc, avec un jeu en plus décisif de Zay Flowers pour vraiment, on va dire, mettre le couvercle. Globalement, pour répondre à ta question, oui, ça peut être un plan de jeu assez bien identifié, assez bien exécuté en plus. Et face à une équipe des Chargers qui a jamais vraiment réussi, pour le coup, à s'ajuster, à trouver des solutions efficaces.
Raphaël, il n'y avait pas forcé pour Lamar Jackson. Il a 177 yards seulement à la passe.
Non, effectivement, il n'y avait pas forcé. Grégory l'a dit, le jeu seul avançait bien. Il y a aussi, mine de rien, pendant le match, on voit que Odell Beckham a un petit bobo à l'épaule. Et Flowers aussi a l'air un peu... Alors, blessé, c'est pas le terme parce qu'ils finissent le match. Mais voilà, des petits pépins qui peut-être ralentissent. Et donc, il y a peut-être eu aussi la volonté de ne pas trop insister, sachant que les Ravens sont en semaine de repos ce week-end. On peut peut-être se dire, ok, l'attaque avance par le sol, on mise d'abord sur le sol et on ne force que quand il ne faut vraiment forcer à la passe. Bon, ça a réussi aussi parce que leur défense leur permet. C'est un équilibre entre les deux, c'est qu'ils n'ont pas eu à pousser à la passe parce qu'aussi la défense de l'autre côté serrait tellement de match que... Bon.
Du côté des Chargers, on va pas s'étaler sur la défense, on connaît ses lacunes, on vient de le dire, elle a encore pris 197 yards au sol à plus de 5 yards par course. Du côté de l'attaque, qu'est-ce qui a manqué ? Il y a eu peu de jeux au sol, évidemment. On a aussi l'impression quand même qu'il manque un receveur numéro 2. Keenan Allen prend 14 ballons, ce qui est magnifique. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose, Raphaël.
Ouais, bah t'as le rookie Quentin Johnston qui a été même mis sur le banc en cours fin de match, tellement il ne donnait pas satisfaction. Donc clairement, il te manque un receveur numéro 2 avec la blessure de Mike Williams. Et puis le jeu au sol, autant Austin Eckler reste précieux à la réception... Autant, moi, je trouve quand il court, je trouve que ça manque un peu de punch. Alors, je ne sais pas si ça... Il était blessé l'an dernier. Je ne sais pas si c'est un retour de blessure compliqué, si c'est la barrière des 30 ans pour un coureur qui commence à se faire ressentir. Mais je trouve qu'il y a peu de vitesse et d'accélération dans ses courses et ça m'inquiète un peu pour la suite.
Grégory, sur cette attaque des Chargers ?
Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Hein. C'est Justin Herbert, ton meilleur coureur. C'est quasiment Austin Eckler, ton meilleur receveur. Bon, j'exagère volontairement, parce que bien sûr, on est sur une grosse saison de Keenan Allen en receveur numéro 1. Mais voilà, on a des joueurs qui sont sollicités, mais pas forcément dans leur rôle premier. Et puis, sur ce match-là, on est aussi obligé d'appuyer sur la ligne offensive. Parce que sur des jeux ultra décisifs, certes, c'est une défense de gros calibre, comme on l'a dit précédemment. On a une ligne offensive qui s'est étiolée petit à petit et sur des troisièmes, des quatrièmes, donc tu peux pas faire grand chose. Et encore une fois, Justin Herbert est un peu livré à lui-même au milieu de tout ça, obligé de se dépatouiller un peu, et il en ressort pas grand chose puisqu'au final, offensivement, t'as montré une aussi mauvaise copie que ce qu'a montré la défense.
Bengals 10, Steelers 16, on parle d'un ancien favori, les Cincinnati Bengals, qui malheureusement, on le rappelle, sont décrochés maintenant à 5 victoires, 6 défaites, à cause notamment de la blessure de Joe Burrow. Les Steelers donc ont gagné 16 à 10 ce match contre les Bengals, le réveil, le déchaînement, plus de 400 yards en attaque pour les Steelers. Alors ok, 16 points, mais 400 yards quand même. Est-ce qu'on a vraiment vécu une révolution offensive ? Je sais, Raphaël, que tu étais vraiment enthousiaste sur le chat de la rédaction. Pendant ce match, tu étais déchaîné, ça y est, enfin.
Enfin, effectivement, c'est la première fois depuis très très longtemps, je compte une quarantaine de matchs, hein, que Pittsburgh passe les 400 yards en attaque.
J'avais lu 2020, je crois, ou quelque chose comme ça.
Il me semble avoir vu ça aussi.
Ouais. Ah ouais, 2020, ok, je me suis peut-être emballé sur les 40 matchs, ça fait peut-être plus une trentaine du coup. Quoi, ça fait une trentaine, hein,
ouais, on n'est pas loin.
Ça va vite.
Ouais, cela dit, on n'est pas si loin. Ouais. Ouais.
Deux saisons et demie, tu y es, je crois.
Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est toujours un peu drôle et marquant que ça arrive au lendemain, on va dire ça comme ça, du licenciement de Matt Canada, qui était le coordinateur offensif, qui était un vrai problème. On a particulièrement vu beaucoup plus de gros jeux, d'actions de plus de 20 yards. On a vu un Pat Freiermuth au poste de tight end beaucoup plus utilisé. Donc, il y a des choses intéressantes, c'est indéniable, qu'on voyait pas avant. Maintenant, mollo, attention, c'est qu'un premier match. Comme tu le dis, il y a quand même que 16 points marqués pour 400 yards. Donc ça manque quand même un vrai problème de capacité à conclure les drives, etc. Donc moi, je vais attendre avant de m'emballer, mais je peux comprendre que certains fans de Pittsburgh se soient réjouis de voir enfin un peu d'attaque, ça je l'entends.
Il y a 6 actions de plus de 20 yards, dont 4 à la passe, 153 yards au sol, et après tu le disais, le bémol c'est 1 sur 4 dans la zone rouge. Grégory, est-ce que c'est normal pour une attaque jeune en un sens ?
Normal, non. Après, c'est vrai qu'ils ont un petit peu manqué de réussite. Il y a ce touchdown qui n'est pas validé. Et juste derrière, il y a le fumble de Jalen Warren qui rend le ballon à Cincinnati. Après, bon, malheureusement, on va pas changer du jour au lendemain, je pense, les facultés peut-être de Kenny Pickett à être décisif. Malheureusement, on voit que c'est encore un peu problématique. Il faut le rassurer, parce que visiblement, avec Matt Canada, c'était pas le cas. Ça veut pas dire que demain, ce sera en effet un quarterback élite. Je rejoins globalement ce qui a été dit par Raph. Mais voilà, si déjà tout le groupe autour, la ligne offensive, les cibles, le backfield arrive à être vraiment au diapason, je pense qu'on peut avoir un meilleur visage. Il y avait une équipe de Cincinnati qui a essayé, j'allais dire, de pourrir le match, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est vrai que voilà, sans trop anticiper, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai que voilà, ils ont avant tout fait le travail en défense. Mais voilà, la semaine dernière, avec le même groupe quasiment, exception faite forcément de Pat Freiermuth, bah les Steelers avec le même type d'attaque, ils perdent un match insipide. Donc au moins là, tu le gagnes et on attend mieux. Mais oui, on va pas s'enflammer tout de suite. Oui.
Bon, la défense est toujours canon, en tout cas du côté de Pittsburgh. TJ Watt a ajouté 2 sacs. Heureusement, parce que les Bengals ont quand même eu 3 fois le ballon pour passer devant dans le dernier quart. On le disait, c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser largement l'explosion offensive. Quand t'as pas de jeu au bureau, que t'as pas de jeu au sol, parce qu'ils sont à 25 yards au sol hein, sur ce match, les Bengals, fatalement, ça devenait compliqué. Ils s'en sortent presque bien, Raphaël, dans ce match, les Bengals.
Oui, presque bien, dans le sens qu'ils peuvent, en tout cas en cours de match, ils ont l'espoir malgré tout de le remporter, donc c'est sûr qu'ils s'en sortent presque bien là-dessus. Après, tu vois que c'est pas, ils s'en sortent pas presque bien, j'ai envie de dire, d'une manière positive pour la suite de la saison. Là, ils s'en sortent bien parce qu'en face, il y a une attaque qui était quand même en reconstruction, en recherche d'elle-même, on va dire ça comme ça, et donc, Tu te donnes de la chance, mais le même match, les mêmes actions face à, je sais pas, aux 49ers, aux Eagles, t'en prends 40 et c'est réglé, merci, au revoir. Donc oui, c'est plus l'adversité qui leur permet de s'en sortir bien que vraiment par eux-mêmes, parce que le jeu offensif, il n'y a pas eu grand-chose. Hein, le quarterback remplaçant lance une très vilaine interception, des passes peu précises, incapacité à chercher Jamar Chase dans la profondeur et le jeu au sol pas forcément utilisé. Alors, j'entends, il est pas utilisé parce qu'il court. Enfin, c'est pas efficace, mais peut-être que c'est quand même malgré tout trop vite abandonné. Ou pareil, j'ai trouvé que Joe Mixon n'était pas forcément utilisé en sortie de backfield sur des passes, des screen passes, etc. Des petites tentatives de jeu un peu particuliers. Bon, compliqué.
Grégory, qu'as-tu pensé de Jake Browning? 19 sur 26, 227 yards, un touchdown, une interception.
Bon, en effet, les statistiques sont un peu flatteuses. De prime abord.
Première saison hein, pour Jake Browning, on rappelle.
Oui, il a fait quelques practice squads dans différentes équipes, les Vikings à l'époque, mais oui, enfin, en tout cas, premier match comme titulaire.
Deuxième saison NFL ? Oui, c'est ça.
Drafté en 2019. Bon, bref, c'est pas très important. Non drafté en 2019, et après, il y a eu tout un tas de practice squads, mais bon, bref, on va pas entrer dans le détail, surtout avec ce qu'on en a vu. C'est vrai que malheureusement sur ce match là offensivement du côté des Bengals, les principaux jeux ils sont faits par Jamar Chase, et paradoxalement sur des actions presque un peu miraculeuses sur des passes déviées par les défenseurs des Steelers qui arrivent à être captées par le receveur de Cincinnati. Donc malheureusement, c'est aussi pour ça que bon, l'expression est un peu maladroite quand je dis que les Bengals ont un peu pourri le jeu défensivement. Mais c'est parce que malheureusement, en fait, offensivement, j'ai l'impression que on a vu un peu de mieux en deuxième quart-temps, et c'est là où ça coïncide avec leur touchdown marqué par Drew Sample. Mais sinon, ouais, le contenu est extrêmement pauvre, et malheureusement, la qualité des passes n'était pas au rendez-vous. Alors certes, il manque des joueurs, T. Higgins, je veux bien l'entendre, mais bon, on peut espérer autre chose, et Raph le pointait du doigt. Le jeu au sol pas suffisamment utilisé dans un match aussi serré que celui-là, bah, ça insiste un peu plus sur le fait que bah, non seulement Joe Mixon n'arrive pas à être décisif sur les ballons qu'on lui donne, mais qu'en plus on lui fait pas suffisamment confiance, et ça à mon sens c'est assez problématique quand t'as un problème de quarterback.
On passe aux Colts 27, Buccaneers 20. Les Buccaneers avaient le ballon pour essayer d'égaliser en fin de match, mais Samson Ebukam a terminé le match avec un sac sur Baker Mayfield. On lui arracha le ballon et en le récupérant, il a tout fait sur l'action, Samson Ebukam. Sixième sac de la soirée pour les Colts. Ils sont septième et joueraient les playoffs aujourd'hui, les Indianapolis Colts. Messieurs, est-ce qu'ils ont l'air d'une équipe de playoffs? Je te demande à toi, Raphaël, parce que je crois que c'est toi qui faisais le résumé du match en plus.
Est-ce qu'ils ont l'air d'une équipe de play-off? Pas forcément, ou alors en tout cas effectivement une septième place arrachée un peu à la faveur du calendrier, des erreurs des autres, et voilà. On a déjà vu hein, des équipes à 7-9 en play-off, ou même les Commanders l'an dernier, enfin voilà, on a déjà vu des équipes peut-être pas très bonnes à aller en play-off, donc ça serait pas la première de l'histoire. Ils y ressemblent pas, mais malgré tout, félicitations au coaching staff, parce que c'est une équipe l'an dernier qui était en décrépitude totale, rien ne fonctionnait, que ce soit l'attaque ou la défense globalement, et l'effectif a pas beaucoup changé pour le coup. Et c'est vraiment, je trouve, ce que propose le coaching staff qui permet à cette équipe bah, d'être en bilan positif à ce moment-là de la saison, ce qu'on pariait pas franchement avant l'intersaison. Donc,
Je vais commencer avec une petite comparaison pour toi, Greg, mais on vient de parler des Steelers. Ils vont être à la lutte directe avec les Colts. Les Colts ont l'air quand même moins solides.
Moins solides, je sais pas, parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui, malgré tout, apparaît complète. Ils ont moins de star power sur certaines positions, si je peux prendre cet anglicisme un peu maladroit, mais c'est vrai que... Là, un peu comme pour Pittsburgh, c'est vrai que le contenu des matchs est un peu plus spectaculaire, peut-être exception faite du match de Francfort face à New England. Maintenant, c'est vrai que si tu regardes les trois dernières équipes qui battent, c'est Carolina, New England et Tampa Bay. Donc en soi, c'est comme pour les Raiders, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà très bien qu'une équipe à qui on promettait l'enfer, une des équipes les plus jeunes au début de la saison, avec les soucis qu'il y a eu en interne avec Jonathan Taylor, etc., etc., arrive après 11 matchs à avoir décroché 6 succès. Surtout qu'on va peut-être mettre le doigt là-dessus, mais je trouve que Garner Minshew, on sait pourquoi il est quarterback numéro 2 au mieux. Hein, il a des choix qui sont un petit peu compliqués, une gestion de la poche qui est ce qu'elle est. Hein, maintenant, moi, ce qui me fait plaisir sur ce match-là, même si on fait lancer Minshew 41 fois, encore une fois, et qu'on se met peut-être un petit peu trop en difficulté de la part de Shane Steichen, c'est qu'on reste sur des fondamentaux qu'il connaît, sur un jeu au sol qui fait ses preuves, et sur une défense qui, avec Gus Bradley, reste malgré tout capable de saquer sans arrêt les quarterbacks adverses, quel que soit le personnel à disposition. Donc c'est un groupe complet, ça on peut pas leur retirer. Après, est-ce que ce sera suffisant quand le niveau va s'élever un peu pour aller atteindre les playoffs? J'en suis pas encore convaincu non plus.
Ouais, il y a quand même 155 yards au sol à 5,7 yards par course. Garner Minshew qui a pas brillé parce qu'il lance une interception, mais qui peut quand même faire avancer le ballon. C'est vrai que Raphaël, mine de rien, cette attaque, pour le coup, je compare avec Pittsburgh, là pour le coup il y a des vraies forces en attaque, et le retour de Jonathan Taylor leur fait du bien, même si c'est un peu blessé au pouce. Je mitige parce que vous entendrez peut-être du nouveau là-dessus dans les heures à venir, mais il y a une attaque qui est quand même plutôt complète, on le voit encore sur ce match.
Il y a une attaque plutôt complète, hein, c'est ce que tu disais quand t'as posé la question comme ça d'entrée. Aujourd'hui, je suis pas sûr que je préfère pas jouer avec l'attaque des Colts qu'avec l'attaque des Steelers à l'instant T, hein. Je dis pas forcément en termes de potentiel, mais tu vois, j'en suis pas certain. Le retour de Taylor fait beaucoup de bien, mais le jeu au sol fonctionne bien depuis le début de saison, hein, grâce à la ligne offensive, et on se rappelle qu'il y avait un Zach Moss qui faisait des belles sorties quand on lui a demandé de remplacer Jonathan Taylor. Donc c'est la preuve que c'est aussi quelque chose de schématique qui permet de structurer, qui permet à Indianapolis de globalement bien avancer avec le ballon. Donc ils ont des atouts, ils sont bien coachés,
Et puis mine de rien, la défense est étonnante. 16 pressions, 6 sacs, l'action décisive sur ce match. C'est une vraie bonne défense. Je te vois hocher la tête, Grégory.
Oui, ce que je disais tout à l'heure. Globalement, c'est vraiment une équipe qui est capable de mettre la pression avec beaucoup de joueurs. Ils avaient laissé partir à l'intersaison. Je crois que c'était Yannick Ngakoue qui avait franchi la barre des 10 sacs l'année dernière. On l'a remplacé par Thompson et Buka, mais on voit pas forcément une énorme différence dans ce qui est mis en place par Indianapolis. C'est d'autant plus remarquable, je dirais, même si c'est pas directement lié au pass rush, qu'on rappelle que c'est une équipe qui a coupé de manière assez surprenante Shaquille Leonard il y a quelques jours. Et on voit qu'au final, même si on rajeunit l'effectif et même si en effet, il n'y a pas beaucoup de joueurs extrêmement connus dans cet effectif, en tout cas si on compare par rapport à d'autres, Gus Bradley fait du Gus Bradley et arrive sur ce genre de match à poser des difficultés à l'attaque adverse.
Du côté des Buccaneers, on a vraiment l'impression que ça dépend quand même beaucoup de Baker Mayfield et qui fait ce qu'il peut. 199 yards de touchdown, une interception, ils vivent et ils meurent avec les erreurs et les coups d'éclat de Baker Mayfield, non Raphaël?
C'est complètement ça. L'interception qu'il lance est vraiment pas bonne. Elle est pour lui. Il y a ce fumble qui est mal. Alors bien sûr, il prend la pression, mais malgré tout, c'est lui qui perd la balle sur cette dernière action, on va dire cette dernière série offensive. C'est ce que tu dis, c'est que autant sans Baker Mayfield, ils auraient pas de solution au poste de quarterback et ils seraient encore plus mauvais, autant avec lui, on voit qu'ils peuvent pas non plus prétendre à battre tout le monde, donc ils sont dans une sorte d'entre-deux avec un quarterback qui est ce qu'il est, et qui est pas assez entouré pour performer mieux, le jeu au sol, enfin encore une fois, j'ai rien contre Rashad White qui a pas l'air d'être un mauvais coureur, hein, parce qu'il y a quelques courses où tu sens qu'il a de l'accélération, un peu de vision, mais...
Bah pour une fois, il fait 100 yards en plus.
J'allais dire, il fait 100 yards avec 6,7 yards par course.
Oui, non, mais c'est pour ça. Ballons.
Il en fait une par an.
Ce que je veux dire, c'est que du coup, il y en a une grosse en plus de mémoire. Il y a une grosse course qui lui permet de pas mal accumuler. Mais structurellement, ils n'arrivent pas à imposer ce jeu au sol pour apporter plus d'aide à Baker Mayfield. Et du coup, tu as un Baker Mayfield qui fait 2-3 erreurs, une ou deux erreurs par match. Et ils sont à ce niveau-là. Et bon, c'est compliqué.
Grégory, ça se résume encore une fois à ça, c'est ces vétérans qui font quelques petits trucs, hein, même en défense de temps en temps, mais ça manque de régularité et du coup Mayfield se retrouve à être le baromètre quoi, vraiment de cette équipe.
Oui, c'est ça, c'est un groupe qui est globalement, notamment l'attaque, mais ça on l'avait déjà pointé du doigt, qui malheureusement a un manque de talent et je suis pas sûr que le coaching arrive à surélever tout ça. Ouais, c'est 1 sur 3 en zone rouge, bon c'est pas fameux et c'est surtout une protection du ballon qui posait déjà problème à Cleveland pour Baker Mayfield et qui là se ressent sur des moments un peu chauds où la ligne offensive qui généralement est qualité du côté de Tampa est beaucoup plus mise sur le reculoir comme ce qu'on a vu ce week-end du côté d'Indianapolis. On rajoute à ça la défense qui prend l'eau contre la passe mais dans des proportions comme on l'a rarement vu ces dernières années. Et oui, on insiste encore un peu plus sur le fait qu'on est clairement sur une fin de cycle à Tampa Bay et qu'il va peut-être falloir se poser la question concernant Todd Bowles.
Ah, Raphaël, c'est ça que tu voulais poser, c'était la question du coach.
Ouais, enfin, je sais pas si c'était une question à poser, mais effectivement, je rejoins Grégory là-dessus. La question du coaching se pose forcément, d'autant plus, j'ai envie de dire, en miroir par rapport aux Colts. En fait, c'est que quand tu regardes sur le papier, est-ce que l'effectif de Tampa est beaucoup plus faible et moins talentueux que celui d'Indianapolis? Je crois pas.
Juste sur poste de running, peut-être.
Ouais, juste sur poste de running, effectivement, mais globalement, t'as un effectif qui paraît peut-être même meilleur du côté de Tampa. Et quand tu regardes le résultat, t'as l'impression quand même que Indianapolis joue mieux et est mieux coaché, donc ça remet quand même en question Todd Bowles, effectivement.
Raphaël, depuis 2 semaines, il est en mode cost killer, quoi. C'est-à-dire qu'il coupe des coachs dans tous les sens. Si vous avez besoin d'optimiser vos coups, hein, Raphaël, dans les RH, peut-être, une carrière qui se dessine. vous pouvez nous envoyer vos demandes d'entretien d'embauche, contact@jeanactu.com. Petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic C Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Falcons 24, Saints 15. La NFC Sud continue de changer de leader. Cette fois, ce sont les Falcons qui prennent la main. Les Saints ont bien laissé échapper toutes les occasions avec un beau 0 sur 5 dans la zone rouge. Bijan Robinson a marqué le touchdown du chaos dans le dernier quart. Les Saints n'ont jamais réussi à revenir. Est-ce que c'est sur ce genre de match, Grégory, qu'on voit qui a un meilleur coach?
J'attendais qu'on arrive à ce moment-là, pardon. Meilleur coach, je suis pas persuadé à 100%, même si je... Clairement, on ne cesse, je trouve, de voir les limites de Dennis Allen sur des matchs aussi importants. On l'avait déjà vu aux Raiders et j'ai pas la sensation que chez les Saints, avec un groupe qui pourtant est pas qualitativement si mauvais, loin de là.
C'est pour ça que je dis ça, parce qu'on vient de dire que les Buccaneers face aux Colts, par exemple, il y avait des effectifs. Là, j'ai l'impression que l'effectif des Saints,
C'est sûr. C'est vrai qu'on casse du sucre sur le dos des Buccaneers qui sont à 4-7. Techniquement, ils sont à une victoire du leader de division. Mais c'est sûr. Voilà. En tout cas, du côté des Falcons, pour répondre à ta question, je sais pas d'un point de vue coaching, mais en tout cas, la semaine de repos a fait du bien. Elle a permis, malgré tout, je dirais, de peut-être mieux préparer les choses, même si ça n'a pas sauté aux yeux dans le premier quart, parce qu'ils ont quand même été un petit peu bousculés par cette équipe des Saints, et jusqu'à l'interception et le pick six de Jesse Bates, on n'en menait pas large sur le fait que Atlanta allait réussir potentiellement à s'imposer sur ce match-là. Après, est-ce que ça a joué vraiment, est-ce que ce jeu a vraiment joué, notamment dans la tête de Derek Carr, pour avoir un rendement offensif aussi minime, ou est-ce que c'est vraiment la défense qui a posé problème justement dans la zone de vérité à New Orleans? J'aurais du mal à être clair là-dessus. Après, je trouve qu'on est revenu sur des fondamentaux du côté d'Atlanta, pour finir mon propos, c'est-à-dire du jeu au sol à outrance, ce qui fonctionnait très bien l'année dernière, et bizarrement, t'arrives à gagner le match face à une équipe qui paraissait quand même un peu susceptible de te poser des problèmes. T'as quand même 9 points d'écart à l'arrivée.
Raphaël, tu vois autre chose que le coaching, toi ?
Non, effectivement, le coaching est quand même des joueurs. Après, je trouve qu'il y a aussi un peu de sous-performance des joueurs. Enfin, l'interception lancée par Derek Carr est vraiment affreuse. Et ça, je trouve que c'est pas tant le coaching qu'un mauvais choix du quarterback. T'as des receveurs qui, globalement, ont pas du tout réussi à se démarquer du marquage en homme à homme, on va dire, en défense contre les Falcons. Enfin, Chris Olave fait pas un bon match. Rashid Shaheed se blesse tôt, certes, mais... Voilà, t'as des joueurs
je te trouve dur avec Olave, parce que bon, certes, c'était au coude en face qui a laissé des boulevards, mais c'est pas le plus infamant à mon sens. Hein.
Non, pas le plus infamant.
Moi, je m'interrogerais plutôt, par exemple, sur un Alvin Kamara ou sur le jeu au sol des Saints. Hein, quand on sait qu'ils avaient le retour de Kamara, qu'ils ont signé Jamal Williams. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de blessures cette année sur les postes de coureur, mais offensivement, c'est pas normal qu'on propose ce type de contenu, et c'est pas la première fois qu'on en parle du côté de Nouvelle Orléans quand même.
Non, c'est sûr.
Le truc, c'est que statistiquement, ils ont dominé dans quasiment tous les secteurs de jeu, sauf le jeu au sol où Atlanta, évidemment, a bourriné. On parle des échecs des Saints. Coup de chapeau à Jesse Bates quand même. Un pick six et un fumble forcé. Ça ressemble à la meilleure... Alors, je vais dire meilleure, mais peut-être qu'on va m'en trouver d'autres. Mais une des meilleures signatures de l'intersaison. Pour le coup, Atlanta a fait une super affaire, Grégory.
Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Au moins, ça rentabilise les signatures qui ont été faites pendant l'intersaison, notamment celle-ci, parce qu'en défense, notamment sur le pass rush, on peut pas dire qu'on soit ébloui du côté d'Atlanta. Mais JT Bates a quand même cette activité, ce volume de jeu qu'on lui connaissait, cette capacité sur la couverture. Là, en plus, voilà, c'est peut-être un peu ce qui manquait, ces actions d'éclat, notamment pour aller chercher des points à l'arrivée. Donc globalement c'est une très très bonne chose et c'est bien de faire le plein de confiance là-dessus. Enfin je le disais, tu sors d'une semaine de repos et tu reprends la tête de la division à ta victime du jour, même si encore une fois la NFC Sud n'est pas renversante, c'est sûr que tu peux repartir du bon pied. Après il va peut-être falloir régler d'autres problèmes du côté d'Atlanta, mais je sais pas si t'allais en parler.
Je vais parler de l'attaque en tout cas.
Bah, d'un joueur précisément.
Mais j'allais dire, et je vais aller quand même vers Raphaël aussi, mais Raphaël, j'ai l'impression que pour le coup, Atlanta, on est fixé sur la formule. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, Heineke, c'est pas beaucoup mieux. On va mettre Reader au cas où il y a une marge de progression. On va bourriner au sol comme on a fait l'an dernier. 41 courses, 21 passes. Et on va se débrouiller comme ça, quoi.
Oui, effectivement, ils sont peut-être revenus à un plan de jeu plus basique et plus dans la norme de ce qu'ils faisaient l'an dernier, notamment sur la deuxième partie de saison. À raison, hein, puisque ça a fonctionné sur ce match. Comme tu dis, ça semble clair maintenant. Je trouve que Reader va finir la saison. Voilà, il a repris les commandes de l'équipe, il regagne, et donc je pense qu'ils vont continuer là-dessus. On a enfin vu beaucoup plus de Bijan Robinson, en tout cas ce que tout le monde attendait. Ça y est, on a enfin une utilisation massive d'un choix haut placé. Alors ça se fait toujours au détriment de Drake London et de Kyle Pitts du coup, mais bon, il y a un moment il va falloir choisir, de toute façon tout le monde ne peut pas avoir la balle. Donc voilà, le choix est fait. Je trouve que c'est cohérent parce que finalement c'est comme ça que Arthur Smith a construit son attaque sur la ligne offensive et sur les choix haut placés, donc autant lui donner le ballon.
Bah et puis de toute façon ils ont pas le quarterback pour vraiment distribuer le ballon à Kyle Pitts et Drake London, donc là pour l'instant ça va être Bijan Robinson, parce que Grégory, quand je dis on va sur Desmond Reader là jusqu'à la fin de la saison etc, ça commence à ressembler quand même jusqu'à la fin de la saison et ensuite faudra trouver une solution, non?
Oui, alors on n'est pas dans un désaveu en termes de proportions aussi nettes que ce qu'on avait eu l'année dernière avec Marcus Mariota, où assez vite Arthur Smith a fait bon bah si c'est comme ça en effet on va courir 90 fois par match. Mais je pense que Reader a cette capacité de développer, de bien tourner dans le domaine aérien, d'alerter ses receveurs. On l'a vu sur certaines séries où, mine de rien, les chaînes avançaient même dans le domaine aérien. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès là où tu te dis qu'il peut se faire intercepter sur n'importe quel jeu. Et malheureusement, Tyrann Mathieu est quasiment un des meilleurs receveurs qu'il a ciblé. Donc c'est un peu problématique. On avait déjà remarqué ça, c'était assez symptomatique contre Washington plus tôt dans la saison où Atlanta s'est tiré une balle dans le pied juste avec 3 interceptions concédées. Donc ça va être le problème de Reader. C'est malgré tout, même avec ce plan de jeu là, essayer de limiter au maximum les erreurs et optimiser la protection du ballon, parce que sinon voilà, ça peut être très problématique à terme.
Mine de rien, au moins ils ont une identité offensive, c'est un peu le contraire des Saints. On parlait des Saints qui se cherchaient avec le jeu au sol, etc. Est-ce qu'il y a un favori dans la NFC Sud à ce moment de la saison, après 12 semaines? Donc on est les deux équipes là, Atlanta passe devant sur la foi des confrontations et des bilans interdivision, etc., etc. Mais sont tous les deux à 5 victoires, 6 défaites, donc il y a évidemment il n'y a rien de joué. Tampa est donc un match derrière, si je ne dis pas de bêtises.
Carolina a encore ses chances, attention. Comme l'année dernière.
Ah bah Carolina n'est qu'à 4 matchs de la tête de la division. Il reste 6, donc c'est jouable. C'est jouable. Il faut faire un all-in, grosso modo, pour Carolina. Mais avec le changement de coach, on en reparlera.
Et il joue deux fois Tampa d'ici la fin de la saison.
En plus. Non, mais il y a un vrai favori. Si vous devez me donner un prono, là, juste en un nom, Falcons, Saints ou Buccaneers.
Moi, ça n'a pas changé. Je continue de penser que les Saints, en termes de qualité d'effectif, restent favoris. Mais vu ce qu'on voit du coaching, ça m'inquiète un peu pour eux.
Ah oui, mais ils sont pas décidés à virer leur coach.
Bon, tout le monde ne le fait pas en cours de saison. Mais surtout que là, il y a des implications pour les playoffs. Donc, je ne les vois pas prendre une décision aussi radicale maintenant.
J'ai réalisé cette semaine que la parenthèse Sean Payton-Drew Brees, c'était un truc un peu incroyable pour les Saints. Mais là, ils sont juste de retour à leur état naturel. Tu vois, c'est...
Oui. Bon, après, que Drew Brees, un petit peu sur le modèle de ce qu'on dit du côté de New England avec Tom Brady, et peut-être sublimer un petit peu le coaching de Sean Payton, je veux bien le croire. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même une différence en termes de coaching, d'ajustement et tout. Je trouve qu'il y a quand même une différence entre ce que proposait Payton et ce que propose Dennis Allen aujourd'hui et de loin.
Non, mais je pense, tu vois, genre là, les dirigeants, ils sont là, genre, pourquoi, tout le monde leur dit, mais pourquoi vous virez pas Dennis Allen? Ils sont là, bon, on est médiocre, on kiffe, quoi, comme d'hab. Sean Payton,
c'est sûr que c'est ce qu'ils ont dit.
Sean Payton, c'était un peu bizarre. Non, mais, là, on revient à la normale.
Non, mais pour moi, la décision la plus radicale qu'il faut prendre, c'est de virer Carmichael. Maintenant, est-ce que Allen a vraiment une solution bis pour savoir qui mettre à sa place et savoir si ça va changer drastiquement l'équipe, je ne sais pas, mais il va pas trop falloir traîner parce que en effet, il reste quoi, 6 matchs au programme pour les Saints.
Bah ouais, ça va vite là.
Même s'il y a largement la place de remporter cette division, ça va se voir quand même si Carmichael mange un peu la feuille une semaine sur deux. Surtout qu'il y a les Lions qui arrivent à la maison, c'est pas gagné.
Allez, on passe à du beau football un peu, messieurs. Vikings 10, Bears 12. 6 ballons perdus, un seul touchdown dans le Monday Night Football. C'est sûrement ce qui ESPN vraiment espérait hein, quand ils ont programmé ce match. Une catastrophe. 2 lignes offensives dépassées, 2 quarterbacks limités. Les Bears ont fini par sortir une passe longue de 36 yards pour aller chercher le field goal de la gagne en fin de match. Oui, j'ai dit un touchdown, mais c'est même pas l'équipe qui gagne qui l'a marqué. Hein. Ça a été hyper dur. J'ai vraiment l'impression que la clé de ce match, c'est que de toute façon, il n'y avait pas de ligne des deux côtés. Donc, bon, il n'y avait pas de jeu offensif, quoi.
C'est ça la clé du match?
Bah, en tout cas, c'est le résumé du match, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux quarterbacks qui, déjà de base, ne sont pas hyper gâtés, n'ont pas vraiment d'armes autour d'eux.
Non, mais.
Parce qu'il y a des blessés aussi. Et en plus, bah, comme il n'y a pas de ligne, de toute façon.
Non, mais alors, ça, c'est mes matchs préférés. À débriefer parce que franchement,
je croyais quand t'as dit mes matchs préférés, j'avais l'espoir que tu t'arrêtes là et que tu dises je veux faire tous les résumés.
Oui, oui, exactement. Oui. Jusqu'à ce que mort s'en suive, à mon avis, elle arrivera vite. Mais non, mais tu regardes le match, tu te dis, mais comment il peut y avoir 3 partout à la mi-temps? Je me suis dit, heureusement que Chicago gagne ce match quand même. Parce que rien que la première mi-temps de Minnesota, je me suis dit, mais normalement, il y a 25-0 quoi. C'était assez extraordinaire. De se dire, il y a des regrets pour Chicago, enfin, il aurait pu y avoir des regrets pour Chicago par rapport à cette gestion, notamment de la première mi-temps et le fait qu'ils aient pas réussi à bonifier les erreurs en cascade qui ont été faites par les Vikings. Mais le dernier drive de Minnesota, enfin, c'est infamant à ce niveau-là quand on connaît le niveau des Vikings et le fait qu'ils ont quand même un chouïa de matos, même avec un Joshua Dobbs qui est pas hyper en réussite. Ils avaient quoi, 5-10 yards à aller chercher pour éventuellement avoir un field goal supplémentaire? Il gagne même pas un yard.
Bah ouais, mais après, c'est pour ça que je comprends pas beaucoup de gens qui devraient mener 25-0. Parce que quand tu fais interception, punt.
Chicago, pour moi, Chicago aurait pu bonifier un tant soit peu plus.
Chicago aurait pu mener 25-0.
Non, mais je mettais ça en perspective. Parce qu'au final, il y a une équipe qui gagne. Parce que bah, forcément, il faut qu'il y en ait une sur le papier. Même si déjà vu des matchs nuls, hein, ça leur est mérité. Mais je me dis, Chicago aurait pu avoir des regrets s'il n'y avait pas eu ce field goal à la dernière minute parce qu'il y a une première mi-temps qui est très mal gérée malgré les nombreuses erreurs adverses. Et à l'inverse, Minnesota a une énorme possibilité en fin de match, malgré ceux, de remporter la victoire. Et il y a une dernière série offensive qui est cataclysmique.
Oui, non, mais autant pour moi, j'avais compris que tu disais que les Vikings auraient dû mener 25-0. Bon, il y a quand même des bonnes défenses. Raphaël Montez-Sweat change un peu la défense des Bears. Il a amené pas mal de pression.
Oui, il sort un bon match, c'est certain. Après, là, honnêtement, enfin, les défenses ont tellement eu affaire à des attaques maladroites, j'ai envie de dire côté Vikings et pas bonnes côté Bears, que bon, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à en tirer défensivement de ce match, tu vois. Je veux dire, Minnesota n'a fait que défendre contre des screen pass globalement et une passe longue. C'était des screen pass dans tous les sens. Je crois que Justin Fields lance quand même 16 passes où la balle est lancée avant la ligne de scrimmage ou à hauteur de la ligne de scrimmage. Donc bon, globalement, c'est 2 yards de ballon dans les airs. C'est assez fascinant. Et de l'autre côté, les Bears, il y a eu des pertes de balles dans tous les sens. Donc
Est-ce que c'est quand même un peu la fin de la hype, Joshua Dobbs? Parce qu'il lance 4 interceptions, il y en a 3 qui sont pas, vraiment pas belles. Il prend des sacs et de la pression parce qu'il s'accroche quand même beaucoup au ballon aussi.
Oui, c'est sans doute la fin de la... Et à juste titre, parce que de toute façon, Dobbs, ça paraissait étonnant qu'il soit passé à travers toutes les équipes et toutes les époques comme ça, sans jamais que quelqu'un dise « Hey, mais dis donc, il était vraiment bon, lui !» Donc oui, c'est sans doute la fin de la hype. Après, il a 2-3 qualités et sur ce match-là, ça passe pas, je trouve, surtout à cause des turnovers plus que du game plan. Et je pense que O'Connell est capable de faire gagner 2-3 yards à cette équipe, mais avec Josh Dobbs au centre du terrain, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est à titre personnel sur Dobbs, oui, ça sent la fin, retour à la réalité.
retour à la réalité, Greg, et retour à la réalité aussi dans la course au play-off, parce que Minnesota s'était mis à espérer ces dernières semaines.
C'est ça. Bon, après, Justin Jefferson, il y a un truc de je reviens pas, c'est un peu compliqué.
Ça traîne toujours.
Ouais, ça traîne. Donc, on sait jamais. Peut-être qu'avec son retour, ce sera pas une mauvaise chose. Attends, voilà, c'est toujours pareil. T'as pas de jeu au sol non plus pour pouvoir soulager un peu Joshua Dobbs. Mais pour répondre directement à ta question, moi, ça me fascine un peu parce que, il y a un mois, on nous a dit, attention, Will Levis, il était en feu contre la défense d'Atlanta. Bah, derrière, le soufflet est vite retombé. Joshua Dobbs, ah, bah, il fait un énorme match contre la défense d'Atlanta. Ah, bah, bizarrement, derrière, ça a l'air un peu plus compliqué. J'adore mon équipe, mais bon, des fois, je me dis, ouais, d'une semaine à l'autre, on se rend compte que, alors, il y avait une belle prestation contre les Saints, mais on voit que c'est un peu plus compliqué quand même. Depuis quelques semaines pour Joshua Dobbs, et en effet, comme tu le disais, ça complique un petit peu plus. La candidature, je dirais, de Minnesota en phase finale, surtout qu'il y a d'autres équipes qui poussent un petit peu derrière. Pourquoi pas les Packers, par exemple, qui sont revenus, il me semble, à une victoire et qui vont retrouver les Vikings à Minneapolis bientôt.
Cardinals 14, Rams 37. Les Rams qui sont toujours pas morts dans la course au playoff, justement, portés par un Kyren Williams en feu avec 204 yards et 2 touchdowns cumulés. Ils marquent 37 points, c'est leur record cette saison. Ils menaient 37-8 hein, dans le quatrième carton. Ils ont même pu faire rentrer Carson Wentz en fin de match pour prendre quelques snaps. Williams, il change tout. On dirait qu'ils ont retrouvé une identité autour de ce mec-là, Raphaël. Kyren Williams, 143 yards
au
sol.
Je m'étouffe, je vais laisser la parole à Grégory.
Alors, on va laisser Raphaël s'étouffer. Grégory, Kyren Williams, je disais, qui est l'homme de base de l'attaque des Rams, un peu surprise cette année.
Oui, mais en tout cas son retour a fait énormément de bien parce qu'il a ce côté en effet extrêmement polyvalent qui va très bien à l'attaque des Rams, hein, puisque là encore une fois c'est pareil, hein, Matthew Stafford, on sait qu'il a un panel un peu plus large que Justin Fields, mais en tout cas quand il faut servir ses coureurs en sortie de backfield, il se gêne pas pour le faire. Il a quand même pas mal fait sur cette rencontre. Donc ça fait une fiche de stats très très bien remplie. Royce Freeman également qui continue de confirmer sur le jeu au sol global. Donc oui, ça poursuit une question que je posais peut-être un petit peu après, mais en tout cas du côté des Rams, ça permet d'apporter cette alternance salvatrice, celle qui manquait cruellement du côté des Rams ces dernières semaines, qui avait fait qu'ils étaient repartis sur une fiche négative et sur une victoire un peu étriquée la semaine dernière. Donc clairement, si Kyren Williams revient à 100%, ça peut n'être qu'une bonne chose pour l'équipe de Sean McVay.
J'aime beaucoup le Matthew Stafford a une palette plus large que Justin Fields. Tu manies le phénix.
Exactement. Avec déjà une meilleure lecture, mais ça c'est pas bien difficile, pardon.
Kyren Williams, je rappelle, c'est un choix du 5e tour de la draft 2022. Raphaël, il facilite bien la vie de Matthew Stafford pour le coup, qui est évidemment plus dans le prime de sa carrière.
Oui, non, complètement. Il facilite la vie de Matthew Stafford, même toute cette attaque hein, qui du coup est pas unidimensionnelle et ça libère de temps en temps des espaces. Là, c'était pour Tyler Higbee notamment qui fait un très bon match. Donc c'est globalement tout le jeu offensif, mais j'ai envie de dire que c'est finalement on retourne un peu à l'essence même de ce qu'était Sean McVay au début côté Rams, hein, un jeu au sol avant tout performant et un quarterback capable de bien distribuer la balle comme il faut pour aller gagner. Et donc c'était ça l'essence de Sean McVay qu'il avait un peu mis de côté peut-être sur l'année du titre en insistant beaucoup sur Matthew Stafford en le faisant venir, mais là on retrouve à quelque chose d'un peu plus classique. Et c'est ce qui fonctionne bien pour Sean McVay et les Rams.
Il y a aussi des révélations en défense. Kobe Turner, 2 sacs et 5 pressions. Un rookie qui s'impose bien dans la défense des Rams. C'est vrai qu'on a très peu parlé, j'ai l'impression, de la défense des Rams cette année. Là, ils prennent un touchdown sur la première offensive des Cardinals. Derrière, ils verrouillent bien, Grégory.
Oui, en effet, c'est vrai que il y avait beaucoup de paris, on va dire, en défense avec des joueurs qui avaient été draftés relativement bas. Mais ça reste extrêmement bien coaché depuis le début de la saison avec des joueurs en effet comme Kobe Turner. On a un Deshaun Johnson également, l'ancien de Toledo, qui sort un peu du chapeau sur ce match-là pour faire certains jeux décisifs. Un Jordan Fuller également qui se développe sur le poste de safety. Donc voilà, ça fait partie de ces équipes qui, sans avoir forcément que des défenseurs, ultra reconnus médiatiquement, arrive quand même à sortir du chapeau quelques jeux intéressants ou à mettre en difficulté l'attaque adverse. Et c'est ce qu'ont parfaitement réussi à faire les Rams sur ce match-là, parce qu'il y a 14 points des Cardinals, et je le disais la semaine dernière, il y a 16 points des Seahawks par exemple. Donc il y a quand même une défense qui montre de bien meilleures choses par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres sorties.
je reviens sur Turner avec une précision. On pourrait croire qu'il bénéficie de, d'être avec Aaron Donald, etc. Mais il était pris par deux joueurs sur 15 de ses 22 tentatives de rush. Donc c'est en plus un joueur qui est très surveillé pour ce qu'il a fait. Les Cardinals, je le disais, ont marqué au début et puis plus grand chose derrière. Comment ils ont perdu le fil? Pourquoi ils ont perdu le fil, Raphaël?
Bonne question. T'as un Kyler Murray un peu moins précis en cours de match. J'ai trouvé une ligne offensive qui lui laissait de moins en moins de temps avec... Il m'a semblé quand même que le rookie Parrish Johnson était vraiment en difficulté une bonne partie du match, et notamment en deuxième mi-temps, donc je pense que ça a contribué à ça. Et on a un jeu au sol qui était performant du côté des Cardinals en début de saison. James Conner s'est blessé, là il est de retour, mais peut-être que c'est pas encore, t'as pas encore la clé. Et puis la défense, bon, mais là la défense, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise, il y a un manque de talent tellement important en défense que... Ça craque de tous les côtés, quoi.
Greg, il a fait des gros yeux, donc je prends ça comme une approbation.
Oui, oui, je... Et on va... ça a l'air de céder toute part. Quelqu'un a des nouvelles du run stop d'Arizona, non? Parce que depuis le début de la saison, c'était ma question, je le cherche désespérément. Donc n'hésitez pas à envoyer un message sur Twitter.
Ils ont pris 6,9 yards par course, en effet, sur ce match. Titans 17, Panthers 10, duel de quarterback rookie, chacun a eu sa mi-temps. Will Levis a plutôt bien commencé, Bryce Young a été meilleur en deuxième mi-temps, dans des proportions assez limitées hein, quand même, il n'y en a pas un des deux qui a vraiment flambé. Les Panthers ont été stoppés encore et encore et encore et encore en défense en fin de match. Merci la défense des Titans, on a l'impression que c'était un peu la seule escouade qui était au niveau dans ce match. Ils sont portés par Jeffrey Simmons, qui est vraiment la star, Denico Autry a deux sacs. Voilà, c'était l'escouade dominante qui a gagné, Grégory.
Oui, c'est une victoire à la Titans, si je veux caricaturer un peu là-dessus, parce que tu as 7 points d'écart. En résumant très grossièrement, c'est le TD de Derrick Henry sur la perte de balle très haute des Panthers sur ce match-là. Donc voilà, j'ai pas la sensation que Tennessee a dominé ce match de la tête et des épaules non plus, mais après ils ont été beaucoup plus opportunistes, beaucoup plus acharnés en défense face à une O-line qui escalait du côté des Panthers et qui continue de prendre l'eau semaine après semaine. Et voilà, tant mieux pour Tennessee parce que ça leur permet de stopper un petit peu l'hémorragie, d'aller chercher un quatrième succès cette saison.
J'étais dessus, donc il y a eu 13 punts, donc oui, clairement c'était pas un truc... passionnant, quoi, tu vois, en termes de rythme et tout ça. Après, moi, le constat, honnêtement, c'est que j'ai l'impression que les deux quarterbacks sont pas très bien sont même plus que pas très bien entourés. C'est-à-dire que il y a des problèmes au niveau des lignes, il y a des problèmes au niveau des receveurs, etc. Il y a des plus gros noms du côté de Tennessee, mais très honnêtement, les stats sont flatteuses pour Derrick Henry. Il fait illusion, il est encore là pour pousser un petit peu ce qu'il y a devant lui, mais justement, il n'y a pas de trou devant lui, il pousse ce qu'il y a devant, quoi. Donc, ils sont quand même très mal entourés tous les deux et c'est dur de jauger leur niveau, que ce soit à Levis ou à Young. Raphaël, je sais pas si t'as vu sur ce match et qu'il y en avait un des deux qui te faisait meilleure impression.
Non, pas vraiment. Comme toi, je trouve que les deux sont mal entourés et ont tous les deux des lacunes, mais ils ont pas le casting autour pour leur permettre de gommer un peu ces lacunes ou en tout cas les tirer vers le haut. Donc c'est compliqué et ça va l'être. Et j'ai peur que ce soit... Autant côté Tennessee, je ne sais pas, mais autant côté Carolina, j'ai peur que ça puisse être encore compliqué, même la saison prochaine pour un Bryce Young. Il n'y a pas forcément les ressources pour aller l'entourer. Il y a une direction qui n'a pas l'air d'être très bonne dans les choix qu'elle fait, donc je suis un peu inquiet pour la suite.
Alors justement, je vais partir de ce match pour basculer sur de l'actu quand même et qu'on en parle. Frank Reich, le coach des Panthers, a été viré dans la foulée de ce match. C'est le deuxième coach viré de la saison, du coup, derrière Josh McDaniels. Il laisse la main Chris Tabor, le coordinateur, qui était le coordinateur offensif.
Équipe spéciale.
Équipe spéciale, voilà. Je dis ça parce que il y a une petite coquille dans l'article sur le site, le coordinateur des équipes spéciales. Je corrige en même temps.
Quelle polyvalence, Tabor, cet homme, c'est incroyable.
Voilà, je corrige l'article sur le site en même temps. Il n'y avait pas marqué équipe spéciale. Donc Chris Tabor prend la main. Alors sa première décision, ça a été de virer Josh McCown et Deuce Staley, qui étaient coach des quarterbacks et des coureurs. Il s'est dit, Antonio Pierce, il a fait le coup du coach ancien joueur proche des joueurs et il a enfumé Josh McDaniels. On ne fera pas la même chose. Il a tout de suite pris des frappes préventives, quoi, Chris Tabor. Bon, est-ce que ça peut les sauver, ce changement de coach, ou est-ce que, in fine, là, on est quand même sur une saison perdue et ça change pas grand-chose, Raphaël?
Saison perdue, je crois sincèrement pas que ça change grand-chose. Enfin, Moi, je suis toujours un peu dubitatif là-dessus. Tabor, il est choisi par Frank Reich, qu'on vient de licencier. Donc, est-ce que le mec qui vient d'être licencié prenait des bonnes décisions en ayant un staff avec lui incroyable, sauf lui, en fait. Il était le seul mauvais du staff, tu vois. J'ai toujours un peu de questionnement et d'interrogation là-dessus. T'as toujours des bonnes surprises dans toute équipe, hein, mais bon, voilà. En tout cas, je ne crois pas.
Tabor, il a 52 ans et il était assistant des équipes spéciales chez les Bears, ensuite chez les Browns, ensuite chez les Bears, ensuite chez les Panthers, et donc désormais intérimaire.
Que des franchises d'excellence en plus. Hein.
Oh. Oui, là on a là, clairement.
Vous connaissez pas les équipes spéciales, vous êtes sévère.
Là, il a la culture de la gagne. Hein,
non, par contre, moi, y a un truc que j'ai adoré, c'est que j'ai vu qu'il restait dans ce coaching staff des Panthers un certain Parks Frazier, qui était forcément l'année dernière dans le coaching staff des Colts, hein, parce qu'il était déjà avec Frank Reich, et pour ceux qui se rappellent, c'est celui qui appelait les jeux dans le coaching staff de Jeff Saturday pour la deuxième partie de saison. Et lui, à chaque fois, il passe entre les gouttes. Tout le monde se fait virer. Et lui, je sais plus, je crois qu'il a une expérience en plus, il était en high school il y a pas longtemps, enfin il sort un peu de nulle part. Et le mec, ça fait deux années qu'il fait partie d'un coaching staff où le coach se fait virer en cours d'année, où le mec il est là. Et à la fin de la saison, tranquille, il va faire, vous savez quoi, je vais appeler les jeux, vous inquiétez pas. C'est pour moi.
En un mot quand même, ce qui semble commencer à ressortir, c'est que c'est plutôt au niveau de la direction des Panthers. Ils ont été rachetés en 2018 par David Tepper. Ça fait déjà le deuxième coach, troisième coach qui vient. Troisième, puisqu'il a viré Ron Rivera au début, qui était déjà en place. Ensuite, il a viré Matt Rhule. Et donc là, il vire Frank Reich.
Au milieu de tout ça.
Mais en intérimaire.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça rentre dans le cadre. Ouais.
Voilà, il y a les intérimaires, mais voilà. Donc, en tout cas, il a viré Rivera qui était déjà là, ou Rhule qu'il avait lui-même embauché, et là Reich qu'il a embauché et qu'il a gardé 12 matchs. Est-ce que du coup, c'est plus de ce côté-là? Et la rumeur dit aussi que c'est lui qui aurait imposé le choix de Bryce Young en tête de la draft.
Après que le propriétaire ait son mot à dire sur les choix de draft, ça je tomberai pas de ma chaise en l'apprenant, mais en effet ça, en fait pour moi ça dénote un problème de direction à tous les étages, un problème d'organigramme à tous les étages. On a cessé de le répéter au cours de cette saison, c'est pas normal que Frank Reich en cours d'année ait dit finalement j'appelle plus les jeux, finalement je les rappelle. Enfin, en termes de communication sur le bord de touche, en termes de confiance des joueurs vis-à-vis de lui et de ses techniciens, c'était complètement catastrophique. Et la preuve, c'est que ça n'a pas porté ses fruits sur la durée derrière. Et puis, tant qu'on parle de ça, enfin, David Tepper, on voit que c'est un mauvais propriétaire globalement en termes de gestion. Malheureusement, il reprend le flambeau des Schneider et autres. Mais même le poste de general manager. Moi, je veux bien l'erreur de Bryce Young, mais globalement, il y a une intersaison qui a été très très mal gérée de la part des Panthers. On l'a dit, ils avaient quasiment pas de receveur numéro 1. Il y a juste Adam Thielen qui a permis de faire illusion offensivement. Et maintenant, dès qu'il y a des double teams sur lui, c'est terminé pour Carolina en attaque. Donc globalement, c'est un groupe qui a mal été construit par Scott Fitterer depuis son arrivée du côté de Charlotte.
Raphaël, quelque chose à ajouter sur David Tepper et la gestion?
C'est probablement un problème. Hein. Il y a beaucoup de franchises en NFL qui sont, qui deviennent structurellement défaillantes à cause du propriétaire. Il y a eu les Commanders, il y a les Raiders par moment. Voilà, ça ne serait pas étonnant que ce soit un de plus. Pourquoi pas lui, j'ai envie de dire. Donc oui, je crois que c'est un problème, assurément.
Et alors ça, c'est une sentence à long terme. Si t'es fan de la franchise,
oui,
il vient de la racheter.
Sauf si vraiment il arrive à un moment à prendre du recul et se dire, ok, en fait, le football, c'est pas mon truc. Je ne m'implique pas sur les décisions.
Il me semble d'ailleurs avoir vu que outre les trois coachs NFL qu'il a virés, il en a viré deux dans l'équipe de MLS qu'il possède, ou de MLB. J'ai un doute sur les deux.
Ah aussi.
Je crois qu'il y a deux coachs sur une autre franchise qu'il détient, qu'il a dégagé en assez peu de temps. Ouais.
Très bien, c'est le John Textor de la NFL.
C'est un peu l'idée, ouais.
Oui. C'est... Très bien. Le poisson pourri par la tête, hein, on dit à chaque fois pour ce genre de franchise. Donc. On termine avec du football champagne. Oh, bah Giants oui. 10, Patriots 7. Les Patriots avaient un field goal pour égaliser à la dernière seconde, mais heureusement, ils ont raté à seulement 35 yards. Si je dis heureusement, évidemment, ce n'est pas par cruauté envers les Patriots, c'est par sympathie envers Nitinia, notre rédacteur qui ne voulait pas vivre une prolongation dans cette bouillie de football. Il était au bout du rouleau, donc il était heureux que ça rate. Faut malheureusement commencer par les quarterbacks des Patriots une nouvelle fois, parce que Alors d'abord, sachez qu'aucun des deux n'a complété une passe de plus de 8 yards. Ça vous donne une idée du spectacle proposé. Mac Jones, 12 sur 21, 89 yards, 2 interceptions. Bailey Zappi est rentré, 9 sur 14, 54 yards. Et puis une petite interception pour Bibi aussi, parce qu'il était jaloux. On fait quoi maintenant? Parce qu'ils arrêtent plus de changer. C'est-à-dire que là, je crois que c'est toi, Raphaël. Non, c'est pas toi qui avais ce match-là. Mais sur le titre de Nitinia, il avait mis justement la fin de l'ère Mac Jones. Et j'ai rajouté trois petits points encore, puisque toutes les trois semaines, en fait, c'est la fin de l'ère Mac Jones maintenant.
Un petit peu.
Donc là, il est titulaire au prochain match, je suppose.
Bah, on ne sait pas. C'est ça qui est très étonnant. Il y a quand même un dénominateur commun, messieurs, à ces deux joueurs. Les appels de jeu de Bill O'Brien, pour l'instant, tranquille. Bon, on fait des screen pass, Je vois bien qu'il n'ait pas confiance en ses quarterbacks, mais bon, si à un moment donné, tu n'essayes pas un peu de les challenger et de voir un peu ce que ça donne. On a beaucoup charrié Zach Wilson pendant des semaines et des semaines aux Jets. Au moins, on essayait de lui faire lancer des ballons un peu plus originaux, on va dire, que ce qu'on proposait les Pats ce week-end-là, quoi. Donc, je veux bien que la défense des Giants propose un meilleur contenu défensif. Mais là, une pauvreté offensive, comme on en a vu, en termes de créativité et d'appel de jeu, de la part, soi-disant, d'un des plus grands esprits offensifs du 21e siècle en NFL. Waouh, ça décoiffe quand même.
Non, mais... Après, moi, déjà, ce match, il a eu un bénéfice, c'est que j'ai réalisé que j'avais été dur avec Tom Brady. Parce que quand il a fait sa déclat disant c'était mieux avant, patati patata, la NFL c'est médiocre maintenant, je me suis dit peut-être qu'il mate peut-être que les matchs de ses anciennes équipes.
Ah oui, bah c'est exclusif, ouais, ça, c'est sûr.
Et donc, il se mate du Patriots et du Buccaneers toutes les semaines en ce moment, et le mec, il dit mais en fait, c'est devenu naze depuis que je suis plus là. Peut-être que c'est ça. Après, sur ce match-là, moi, je sais pas, parce que là, Bill Belichick, il va encore nous faire des trucs de vaudou. Non, je vous dis pas qui c'est avant dimanche prochain, parce que là, faut maintenir l'effet de surprise. On a bien vu, ce week-end, il était jusqu'à dimanche, je ne vous dis pas qui va jouer, tu vois, pour déstabiliser l'adversaire. Là, inutile de le dire, ils ont été vachement déstabilisés. C'est ça. Donc, voilà. Raphaël, c'est de la bouillie de football à New England maintenant. Bon, la défense fait toujours son boulot, mais il n'y a pas grand-chose en face sur ce match-là. Donc.
Non, mais oui, la défense continue à faire son boulot, mais l'attaque est un problème depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Et il n'y a rien qui est fait pour vraiment que ça change, en fait, entre les choix de coaching, les choix de joueurs sans réel talent, les... Bon, bah, ils s'enfoncent dans un système et moi, je crois que maintenant, à part faire table rase et repartir de zéro, je vois pas très bien comment... En fait, quand depuis 3-4 ans, tu prends les mêmes mauvaises décisions sur le champ de l'attaque, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, cette intersaison, ça serait la bonne. Ça y est, t'as compris ce qui s'est passé. Donc, il faut tout changer.
Mais juste, Alain, pour être rapide là-dessus, moi, ce qui me fascine... Alors, peut-être qu'il y a du tanking, assumé, pas assumé, on ne sait pas.
C'est étonnant,
ils mettent 6 points contre Indianapolis à Francfort. Ils sortent d'une semaine de repos pour proposer ce contenu offensif. T'as fait quoi pendant 15 jours, en fait?
Mais pendant 15 jours, ils n'ont rien pu faire parce qu'ils ne donnaient pas de première répétition au quarterback. Ils changeaient tous les snaps.
Et donc, pendant ce temps-là, les deux, ils les mettent dans une chambre froide et ils les sortent le dimanche matin. Et finalement, ce sera toi.
Je crois.
Mais ça, c'est parce que
c'est délirant, quand même.
C'est parce que vous n'êtes pas au niveau de Bill
Belichick. Ah non, clairement, ça. Non, ça j'avoue mes lacunes dans ce domaine-là. Ouais.
Je pense qu'il est temps de retraiter Bill Belichick.
Ah.
Quand je dis retraiter, c'est d'ailleurs de lui faire comprendre gentiment qu'il doit lui-même se mettre à la retraite pour ne pas avoir le déshonneur d'être viré.
Je pense que ça commence à être évoqué. Il y a d'ailleurs le petit serpent de mer Mike Vrabel qui commence à prendre un peu plus d'ampleur du côté de Foxborough. Je dis ça,
parfait.
Je dis rien.
Parfait. Ah bah, est-ce que Vrabel, ça va régler tous les problèmes offensifs?
Parce c'est
que
pas Tennessee, mon propos, mais peut-être que Robert Kraft.
Tennessee, depuis 3 ans, c'est le football champagne. C'est là.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont regardé Tennessee, ils se sont dit c'est ce qu'il nous faut. Là, offensivement, on va revivre.
Et si tu marques 9 points au lieu de 7, t'es déjà bien. Hein.
Ça avance, c'est un progrès. Ouais. En face, justement, en parlant de progrès, bon, c'était pas la fête non plus, encore une fois. Hein, le touchdown, c'est parce que la défense récupère le ballon à 26 yards de la end zone, hein, pour les Giants. Le field goal, c'est après un ballon récupéré sur les 35 yards, hein, aussi. Donc, ils sont jamais très très loin quand ils marquent des points. Tommy DeVito, mine de rien, fait des petits trucs de temps en temps. 17 sur 25, 191 yards, un touchdown. Il devient honorable. Grégory. Oui. Il ressemble à un quarterback NFL ce match.
Taquiné
sur le premier.
Je répète ce que j'ai déjà dit. Voilà, j'ai été très sévère sur les premières sorties de Tommy DeVito, qui au moins a le mérite sur les dernières sorties de limiter les erreurs. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas il y a un contenu qui est pas déshonorant. Il y a une bonne connexion avec Jalin Hyatt sur le match de ce week-end. Donc si ça peut permettre en tout cas de développer un peu des joueurs autour et pourquoi pas d'avoir à minima un statut de quarterback numéro 2 dans les mois à venir, pourquoi pas. Il pourra pas prétendre à plus non plus. Hein. Je poursuis sur l'idée de pas s'enflammer non plus, qu'on évoque depuis tout à l'heure. Mais voilà, oui, là, bon, tu mets 10 points. Certes, face à une grosse défense, mais tu mets 10 points. Donc voilà, t'as limité les erreurs, c'est déjà une très bonne chose. Et au moins, les Giants continuent de batailler, de se bagarrer pour essayer de finir avec un meilleur bilan, un peu plus correct que ce qu'on voit depuis le début de la saison.
Raphaël, Jalin Hyatt, c'est la bonne nouvelle de ce match, 5 réceptions, 109 yards pour le receveur.
Ouais, vraiment de ce match, quoi, parce que bon, pour le moment, depuis le début de la saison, on peut pas dire qu'il ait montré grand-chose, donc ça va falloir...
Sinon, mon autre question sur ce match, c'était pour toi, Raphaël, c'était toi qui as des origines transalpines, est-ce que tu trouves ça cool ou beaucoup trop cliché que Tommy DeVito célèbre ses bonnes actions en faisant avec les doigts comme ça, tu sais?
Ah oui, bah puis...
Est-ce que t'as vu ça?
Oui, j'ai vu, puis visiblement il joue le cliché à fond, puisque j'ai cru comprendre qu'il passe aussi la musique des Sopranos au stade, les Sopranos série sur la mafia... du New Jersey, mais avec toutes les origines italiennes, enfin des mafieux aux origines italiennes et certains même italiens. Donc ouais, non, ça va jusqu'au bout. Écoute, si lui ça le fait kiffer, j'ai envie de te dire, c'est ça le principal. Si lui ça l'amuse, écoute,
Si tu fais passer à New York, tu le fais nulle part.
Non, mais oui, non, mais si lui ça lui plaît, voilà, tant qu'il dit pas que ça le fait chier, moi, écoute.
Voilà, je voulais avoir ton ressenti parce que moi ça fait 3 semaines que je me retiens de faire des blagues en me disant c'est super mauvais goût, on va peut-être pas attaquer ce genre de truc là et tout. Mais bon, là ils y sont allés à fond.
Tant que les gens sont d'accord avec ça, écoute.
Si valide.
Allez, si valide.
Très bien. Très bien, et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode numéro 682 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas aussi à laisser des évaluations et autres étoiles en tout genre sur les applis Spotify, Apple et Podcast Addict. Je crois le fond, c'est les 3 maintenant où vous pouvez noter. Merci aux tipeurs Gouiche23 et Baz qui se sont ajoutés cette semaine. N'oubliez pas évidemment, il y a plein de choses qui se sont rajoutées au Tipeee ces derniers temps. Il y a les porte-clés, il y a les stylos, il y a des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Les réseaux sociaux, @TDActu pour tous nos réseaux sociaux et @TouchdownActu en entier sur Instagram, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @TieloRadioSa pour Greg et @AlainMattei pour moi-même, et évidemment tout le reste c'est sur TDActu.com. C'est toute l'actualité NFL, ça se passe sur le site, ça centralise tout, les vidéos, les podcasts, etc. Merci beaucoup messieurs.
C'est un plaisir.
Et je ne sais plus à qui on laisse la main pour la preview demain, je sais que c'est plus moi. Ah bah voilà, je sais que t'es dans le coup, je me disais, il y avait un truc comme ça. Raoul et Raphaël, donc, que vous retrouvez demain pour la preview. Merci beaucoup messieurs, encore une fois, et je cherche mon générique. Les premières notes retentissent, c'est bon. Merci à tous, à bientôt sur les ondes de TDA. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.